Et c'est l'heure de parler sport avec Olivier Beauregard. Olivier, bonjour.
Salut.
Différentes choses dans la dernière semaine sportive, des semaines plus maigres par ces temps de pandémie. Ouais. Mais il y a quand même quelques sujets qui ont retenu l'attention cette semaine. Tout d'abord, tu nous en avais parlé il y a un bout de temps déjà de Marc-André Barrio en arts martiaux mixtes. On attendait de savoir qu'est-ce qui allait se passer parce qu'il avait été pincé là, pour utilisation de produits dopants.
Oui, absolument. Et on se rappellera que ça s'est passé lors de son combat contre Oscar Pietchota le 20 juin dernier. Un combat qui s'était déroulé du côté de Las Vegas. Marc-André Barrio, c'était son quatrième combat, là, je vous mets en perspective rapidement. Quatrième combat et dernier en UFC, en tout cas du moins sur son contrat. Il n'avait pas remporté de combat encore dans l'octogone. Puis finalement, il signe une victoire. Là, il semble avoir le vent dans les voiles. On parle même que l'UFC veut lui donner une prolongation de contrat, le re-signer finalement pour 4 autres combats. Alors on se dit, hey, c'est merveilleux, enfin, il y a un gars de Gatineau, un gars de chez nous qui s'illustre dans les arts martiaux mixtes, du côté de l'UFC du moins. Alors on était vraiment contents, jusqu'à ce qu'on apprenne justement que là, il avait testé positif un produit dopant. Pour être plus pointu, là, on parle de l'ostarine. Ce qu'on savait pas, par contre, c'est est-ce que c'était suffisant pour l'accuser? Est-ce que c'était suffisant aussi pour que ça ait des répercussions? Écoute, ça l'a tombé. La commission athlétique du Nevada a pris la décision de justement le renverser l'issue du combat. Là, c'est pas seulement une décision de suspension parce qu'on a annoncé aujourd'hui qu'il était suspendu pour une période de 9 mois, mais aussi parce qu'on renverse l'issue du combat. On a dit que le combat serait maintenant tombé là, comme un combat sans décision, donc nul si vous voulez. Là. Et également, on comprend que Barrio a reçu une amende de 2 100 $ en plus de frais là, qui se sont ajoutés à ça. Il ne sera pas éligible à se battre avant le 20 mars prochain. Alors, écoute, c'est un coup de pelle à Marc-André Barrio. Honnêtement, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Je sais que Barrio s'était défendu en disant, savez-vous quoi, des traces d'ostarine, il y en a plusieurs combattants qui en ont eu. Moi, c'est une très petite dose. Ça peut se mélanger dans des produits de suppléments. Mais écoutez, il y a des gars comme Nate Diaz, Diego Sanchez aussi, qui ont testé positif à ça dans le passé. Et c'est des gars qui avaient toujours eu des antécédents de produits dopants. Alors, tu sais, je suis pas en train de mettre Marc-André Barrio dans une catégorie. Je suis pas en train de dire que Marc-André Barrio doit être positionné dans une catégorie de produits dopants, tu sais. Mais honnêtement, c'est pas bon signe. T'es au début de ta carrière là-dedans.
Va trouver un autre contrat après ça. Ça fait une grosse tâche sur le CV, mettons.
Ben exact. T'es dans un âge déjà considéré avancé. C'est Marc-André Barrio à 30 ans. C'est vieux dans ce sport-là, du moins. Écoute, pour lui, là, ça va être très, très, très difficile d'obtenir un autre contrat. Puis non seulement ça va être difficile, mais tu sais, il n'y a toujours pas de victoire à son actif maintenant. Là. C'est fait, là, c'est révoqué au niveau de sa fiche. C'était déjà pas facile. Là, il y en a qui disent il a gagné parce qu'il a utilisé des substances illégales. Écoute, on ne sait pas là, comment ça s'est passé. On ne sait pas comment son camp d'entraînement s'est déroulé. On ne sait pas non plus si ça a été volontaire, cette dose-là. Moi, je connais le personnage. J'ai été surpris d'apprendre ça. Mais tu sais, quand des fois, puis encore là, je veux pas pointer du doigt, je veux pas faire de fausses accusations, mais je me mets dans sa position, Sébastien. Quand tu te bats pour ta carrière, tu te bats pour ta vie, est-ce que il s'est fait un peu serrer un bras? Je sais pas. Je dis ça comme ça. Mais je trouve ça très, très triste. C'est une nouvelle qui fait vraiment mal pour ce gars-là. Puis c'est plate parce que toute la belle publicité qu'il a pu utiliser au courant des 2 dernières années, là, ça va être tout le contraire. Il va devoir toujours s'expliquer là-dessus. C'est fait, c'est entaché, c'est sur son CV. Il va toujours devoir expliquer qu'est-ce qui est arrivé en juin 2020 lorsqu'il a testé positif à un produit dopant. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, son combat, sa belle victoire en UFC, ne compte plus à sa fiche.
Sinon, dans le monde du hockey, est-ce qu'on pourrait vivre un semblant de saison de la LNH en mode classique hivernal? C'est ça que certaines équipes regardent?
c'est ce qu'on rapporte, du moins. Il y a 4 formations qui aimeraient, qui étudient présentement la possibilité de jouer leur match à domicile à l'extérieur. On parle ici là, des Penguins de Pittsburgh, des Kings de Los Angeles, des Ducks d'Anaheim et des Bruins de Boston. C'est Elliott Freeman qui a rapporté ça aujourd'hui de Sportsnet. Lui, ce qu'il dit finalement, c'est que, bon, les Kings auraient été les premiers à considérer l'idée parce que ça permettrait d'avoir des partisans qui respectent une distanciation, mais des partisans, tu sais, si, par exemple, si on joue dans un stade de football, ben, tu peux en avoir plusieurs. Tu peux même aller chercher ce que tu vas chercher normalement dans un amphithéâtre. Mm-hmm. C'est une source de revenus et il y a moins de danger. Il y a moins de danger de contracter la COVID-19. En tout cas, c'est ce qu'on dit parce que t'es à l'extérieur pis tout ça.
Mais là, t'as parlé des Ducks d'Anaheim, là. Anaheim en Californie.
Ouais, ouais. Pis les Kings de Los Angeles, là.
Pis,
c'est eux qui ont eu l'idée en premier.
Peux-tu m'expliquer
ben, ça se fait. Rappelle-toi des matchs, des classiques des stades dans la Ligue
oui,
nationale.
Oui, OK. Oui, on adapte. Ouais, on met des planchers réfrigérants pis
exactement,
tout ça, là.
Okay. Parce que les Kings de Los Angeles l'ont déjà fait. Je crois que les Ducks d'Anaheim aussi l'ont fait. Alors, ça se fait, le discuter du hockey dehors en Californie. Ça s'est déjà vu. La Ligue nationale sait comment faire ça. On a déjà fait ça. Tu sais, ça serait pas nouveau. Okay. Est-ce que c'est réaliste de le faire maintenant? Je ne sais pas. Mais si tu vises, disons, le scénario de l'hiver 2021 plutôt, ben ça se fait parce que la NFL va arrêter aux alentours du mois de février. La Ligue nationale, elle décide de disputer des matchs dans les stades de la NFL par la suite pour respecter la distanciation, avoir des partisans, mais avoir un revenu supplémentaire. Écoute, honnêtement, ça vaut la peine de s'y pencher parce que présentement, la Ligue nationale, ce qui est drôle, c'est Gary Bettman, là, il arrête pas de dire qu'il va avoir des camps d'entraînement d'ici les fêtes, avant Noël. Écoute, c'est le seul qui dit ça parce que quand tu parles aux joueurs qui font partie de l'association des joueurs puis qui font partie des discussions en ce moment, là, je lisais un article sur Antoine Roussel. Ils disent tous que c'est impossible. C'est impossible, ça arrivera pas. Oubliez ça. C'est impossible. La date que Bettman s'est fixée du 1er janvier, là, c'est pratiquement impossible. Il n'y aura pas de saison. Et honnêtement, le compteur tourne. Là. On est rendu le 3 décembre. Est-ce que c'est vraiment réaliste de penser qu'on va avoir des camps d'entraînement dans 2 semaines puis une saison qui va commencer le 1er janvier alors qu'on sait même pas comment le partage des revenus va se faire? C'est impossible, Sébastien. C'est impossible. Il y a trop de choses. Alors, est-ce que ça devient, cette proposition-là de certaines équipes de la Ligue nationale, est-ce que ça devient un scénario envisageable? Ben, c'est pas impossible. Maintenant, faut étudier à savoir est-ce qu'il y a des coûts, parce qu'il va y avoir des coûts rattachés à ça, là.
C'est sûr.
Donc, c'est pas mal plus cher que jouer dans ton amphithéâtre. Est-ce que, au bout du compte, les équipes, la Ligue nationale, les joueurs sont gagnants de faire ça? Ben, ça, ce sera à la Ligue nationale d'analyser ça. Mais, honnêtement, moi, je pense que ça vaut la peine de s'y attarder. Je trouve ça quand même très intéressant. Écoute, la pandémie ne fait que nous surprendre dans le monde du sport depuis le début. Peut-être que là-dessus, il va falloir s'adapter à ça, du moins pour la saison 2021. Puis, ce qui est intéressant, puis je fais une dernière parenthèse là-dessus, c'est que tu sais, le scénario d'avoir certains partisans dans les estrades, ça, c'est fait. Au baseball, là, rappelle-toi la Série mondiale,
oui.
Il y avait des partisans. Bon, il y en avait très peu, mais il y en avait. En MLS, en ce moment, on dit qu'il y a des partisans dans certains endroits, on les accepte. Évidemment, encore une fois, en respectant la distanciation physique, parce que ce sont des stades extérieurs. Alors, la Ligue nationale de hockey, comme j'imagine, en tout cas du moins en Amérique du Nord, c'est presque impossible d'avoir des partisans à l'intérieur. Là. Moi, je pense que la solution, si tu vas avoir du monde qui paye au guichet, au tourniquet, ben c'est peut-être d'avoir des matchs extérieurs, puis tu charges ça à tes aux partisans. Et peut-être que ça va faire une expérience assez intéressante pour la saison 2021. Mais encore là, il n'y a rien de certain, mais ça sera intéressant de suivre ça.
Puis ça, c'est un scénario pour la LNH. Dans la LHJMQ, on parle d'autres scénarios. Il n'y a pas question de jouer dehors là pour eux.
Oui, exactement. En terminant, là, ben c'est ça. La Ligue junior majeure du Québec a arrêté ses activités. Rappelle-toi qu'elle disait récemment, on va poursuivre, puis on va voir comment ça va se passer par la suite. Évidemment, on est en zone rouge. C'est dans plusieurs régions du Québec. Ça n'a pas changé. Alors, on a décidé qu'on allait prendre une pause lors du congé des fêtes. On l'a étendu, finalement. Là, on a dit on va arrêter au début décembre, puis en janvier, on va essayer de relancer ça. Évidemment, là, faut y aller de scénario parce qu'on sait pas qu'est-ce que ça va ressembler au mois de janvier. Ce qu'on nous dit présentement, là, c'est que les scénarios de retour au jeu, on parle de la création d'événements en environnement protégé. C'est-à-dire que, un peu comme qu'on a fait l'expérience au Centre Vidéotron à Québec, ça a bien fonctionné, là, heureusement. Il n'y a pas eu de cas de répertorié. Il y a eu 6 équipes qui se sont disputés des matchs au Centre Vidéotron de Québec. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'on va faire la même chose dans des environnements protégés au Québec. Ben, si c'est possible, dans des zones oranges, tu sais, on sait que du côté de l'Abitibi, là, mettons, t'as Val-d'Or, t'as Rouyn-Noranda, est-ce que ça serait possible de faire une bulle là-bas? Ça serait peut-être intéressant pour certaines équipes. Alors ça, c'est un scénario qu'on pourrait envisager et on pourrait relancer le calendrier rapidement. On pourrait le relancer le 17 janvier. Alors ça, ça permet à la Ligue de poursuivre. Par contre, Sébastien, là, c'est des coûts supplémentaires très élevés.
C'est sûr.
Rappelle-toi, vous en parlez au Centre Vidéotron, ça a coûté des centaines de milliers de dollars pour pouvoir faire ça, même si ça s'est avéré une expérience super positive. Là, on le sait, ça a coûté très, très cher. Alors,
mais on n'a pas de revenus de billets. Là. On n'a pas. Il nous manque de l'argent qui entre. Il y en a beaucoup qui sort. Là.
Ben exact. Est-ce que ça veut dire que les équipes vont vouloir embarquer là-dedans? Parce que là, quand tu sortes le chéquier à chaque fois, écoute, ça revient cher. On se rappellera aussi que, ça je vous en avais parlé dans une autre chronique, en octobre, le gouvernement du Québec avait offert une aide financière de 12 millions de dollars pour les 12 équipes, mais on s'entend-tu que ça suffira pas pour poursuivre le reste de la saison régulière? C'est pratiquement impossible. Alors, c'est un scénario qui est envisagé. Sinon, il y a plusieurs éléments là, qui vont devoir être éclaircis aussi. Là, ce qu'on dit, c'est que est-ce que ça serait possible de disputer des matchs dans les zones rouges avec des joueurs qui, si tu veux, sont dans des organisations qui sont dans des bulles fictives, c'est-à-dire que les Olympiques de Gatineau vont jouer, mettons, à Baribault, je vais dire ça comme ça là, pour les gens qui voient le lien. Mais à Baribault, ça va être réservé spécifiquement aux Olympiques. Il n'y a pas personne qui peut rentrer là, à l'exception que les membres de l'organisation. Et les membres de l'organisation ainsi que les joueurs sont confinés à leur résidence. Alors, ce sera résidence-aréna. Ça pourrait être un scénario aussi à faire, mais ça, je pense que ça risque d'être plus compliqué. Mm-hmm. Et en terminant, ben juste vous dire aussi que la LHJMQ en ce moment travaille sur un scénario de 35 à 46 matchs là, pour compléter la saison régulière. Écoute, je doutais vraiment beaucoup d'une saison 2020-2021 dans la LHJMQ. Je trouvais qu'on s'acharnait.
Tu en as parlé souvent aussi, oui.
Oui, c'est ça. Mais là, ce que je vois de Gilles Courteau, c'est qu'il n'y a pas l'intention de baisser les bras. Il cherche des scénarios. Mais honnêtement, Sébastien, là, si on fait un environnement protégé encore puis qu'on décide de mettre des bulles un peu partout au Québec, je ne vois pas comment certaines équipes vont pouvoir s'offrir ça. Il y a des équipes qui gagnent pas mal moins que d'autres équipes dans le circuit. Là, c'est la réalité de la Ligue junior majeure du Québec. Il y a des endroits plus précaires que d'autres. Je sais pas comment les équipes vont être capables de passer ça. Mais ça va être à la Ligue junior majeure du Québec de regarder ces scénarios. Alors, on pourra s'en parler éventuellement. Tu sais, il y a pas beaucoup de sport en temps de pandémie. Il y a pas beaucoup de nouvelles, mais pourtant, ça bouge énormément dans l'arrière-scène, là, parce qu'il y a beaucoup de remue-ménage. Alors, on aura la chance, en tout cas, de s'en parler la semaine prochaine. J'ai l'impression qu'on va au moins avoir une bonne idée. Et on devrait avoir une meilleure idée aussi d'équipe Canada junior et du championnat mondial junior. J'en ai parlé la semaine dernière, là, à Edmonton. On est plus certain, finalement, que ça peut se tenir pour plein de raisons. Et là, ça commence à presser parce que normalement, les matchs hors concours commencent dans 2 semaines. Les équipes arrivent très prochainement des autres pays. Qu'est-ce qu'on fait? Ben ça, ce sera à suivre avec les IHF au courant des prochains jours.
Olivier Beauregard, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Joyeux anniversaire!
Merci beaucoup.
On se reparle jeudi prochain.
Excellent, merci, bye-bye.